Dans sa chanson « Carmen », Stromae fait la critique de Twitter et d'une certaine façon des réseaux sociaux en général. Il commence en disant « L'amour, c'est comme l'oiseau de Twitter, on est bleu de lui, seulement pour 48 heures. D'abord, on s'affilie, ensuite on se follow, on en devient fêlé et on finit solo. Prends garde à toi, prends garde à toi. Et à tous ceux qui vous like, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag. » Et par cette chanson, Stromae semble vouloir mettre en évidence le message creux qu'on peut avoir en recherchant à être sur Twitter. Ce message creux qui consiste à vouloir se mettre en avant. C'est vrai qu'on parle d'amour, mais c'est aussi parce qu'on veut être aimé. Il parle ici des relations superficielles qu'on peut avoir, hypocrites, qui finalement recherchent simplement à être likés ou followés. Stromae, ce n'est pas le seul à faire le constat d'une vie qui a tendance à être centrée sur soi, où on a tendance à vouloir être aimé et à centrer sa vie sur soi. L'autre jour, dans le journal Métro Belgique, on pouvait trouver un article sur la question de la philosophie de la vie de citoyenneté qui sera enseignée à l'école dans le secondaire. Et l'auteur interviewé disait la chose suivante: « L'état du vivre ensemble est catastrophique. Nous vivons dans une société où le chacun chez soi, l'indifférence et l'égoïsme, l'individualisme règnent. » Alors on a des artistes qui nous disent qu'on a tendance à être centré sur soi. On a des auteurs qui nous le disent aussi. On a des responsables d'éducation qui nous le disent aussi. On a du tendance à vivre pour nous-mêmes, centré sur nous-mêmes. Et même les réseaux dits sociaux sont en fait dans un désir d'avoir un amour qui revient vers nous. Alors qu'est-ce qui va nous aider à vivre l'amour? Qu'est-ce qui va nous donner les motivations, les ressources pour avoir un amour réel, sincère, qui va nous permettre d'aller vers les autres, non pas simplement de manière intéressée pour être aimé, mais pour les aimer? On pourrait penser à plusieurs choses, et le titre de cette intervention, c'est des racines et du zèle. On va se poser la question, mais qu'est-ce qui va justement nous permettre d'avoir du zèle vis-à-vis des autres, de pouvoir aimer, vraiment aimer les autres? Et on pourrait penser à plusieurs raisons. Une raison qu'on pourrait évoquer, c'est tout simplement la crainte, la peur. Aussi, là, dans un système éducatif, on peut faire appel à la crainte. Et d'une certaine façon, Stromae, dans sa chanson, il fait appel à la crainte, que ce soit par la manière de représenter Twitter, mais aussi la fin de sa chanson. Un jour, tu verras, on s'aimera, mais avant, on crèvera tous comme des rats. Sympa l'ambiance, ça ne donne pas envie. Mais c'est justement pour donner un peu l'impression que si on ne change pas, on va droit dans le mur. Et ça pourrait être une manière de motiver les gens à aimer en disant, mais regardez, votre génération, elle va droit dans un mur, reprenez-vous. Dites-vous, sinon toute une génération sera perdue. Ça pourrait être une motivation. On fait appel à la peur, à la crainte. Mais vous serez d'accord avec moi, on peut être très égoïste en ayant comme motivation la crainte. C'est vrai, la crainte, ça peut être une motivation, mais elle est limitée parce qu'elle aussi, elle peut être très centrée sur soi-même, parce qu'on ne veut pas finir dans le mur, parce qu'on ne veut pas être une génération qui est perdue. On va aimer. C'est une motivation qui est elle aussi limitée. On pourrait penser aussi à ce qu'a dit André Comte-Sponville, un auteur athée, mais qui dit la chose suivante dans son livre « L'esprit de l'athéisme ». Quand il parle des limites de cette motivation, quand il parle de l'amour nécessaire à vivre en société, la cohésion, les liens à favoriser, il dit « La peur du gendarme ou du qu'en dira-t-on ne suffit pas. On a besoin de quelque chose de plus profond, de plus essentiel, de plus durable, parce que plus intérieur, plus intériorisé. » Et il a raison, n'est-ce pas? On a besoin de quelque chose qui est plus profond, qui est plus intériorisé, plus pur aussi, on le verra, que simplement quelque chose qui est de l'ordre de la peur du gendarme, de la réputation à avoir. Pour avoir un amour réel pour les autres, on a besoin de quelque chose de plus intérieur. Alors ça va être quoi cette motivation? Je vous invite à lire deux versets simplement dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12, versets 1 et 2, et je vous les lis ici. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. S'offrir à Dieu, ça c'est l'expression qu'on trouve au verset 1. S'offrir à Dieu, et on doit reconnaître là que l'apôtre Paul prend un terme de prêtrise, comme une personne, comme un prêtre qui se rendait au temple pour offrir des sacrifices à Dieu. Mais là, les sacrifices, ce sont les croyants. Les sacrifices qui ici sont des personnes. On retrouve le langage de prêtrise dans l'expression « un sacrifice saint, agréable à Dieu, un culte raisonnable ». Là aussi, c'est le langage de la prêtrise. Et ça, ça doit dire quelque chose d'assez solennel et étendu. Solennel parce que ça veut dire qu'on s'approche d'un Dieu saint, d'un Dieu qui est Dieu, et étendu parce que c'est toute une vie qui est offerte à Dieu. Pas une petite partie de sa vie, c'est toute sa vie. Et si on devait continuer la lettre pour voir à quoi ça correspond s'offrir à Dieu, on verrait toute une liste de choses que l'apôtre Paul attend de la part des Romains quand il écrit ici « s'offrir à Dieu ». Vous voulez que je vous lise une liste ? La liste ? Même si vous dites non, je vais la lire quand même, donc je vais la lire ici. À partir du verset 9, il lit « renoncez à l'arrogance, mettez-vous au service les uns des autres ». Ayez un amour pur, sans hypocrisie, soyez plein d'affection les uns pour les autres, soyez patients et persévérants, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, allez au secours de ceux qui en ont besoin, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ne rendez pas le mal à celui qui vous fait du mal, mais soyez plutôt vainqueurs du mal par le bien, soyez soumis aux autorités, accueillez-vous les uns les autres, ne condamnez pas, ne méprisez pas non plus, soutenez l'œuvre missionnaire dans l'annonce de l'Évangile. » On a tout ça, une liste impressionnante, mais même pas exhaustive. Si on lit le reste du Nouveau Testament, il y aurait encore d'autres choses à dire sur la manière de s'offrir à Dieu. Mais alors si on a tout ça, si on a tout ça comme liste, comment est-ce qu'on va trouver les ressources, les motivations pour le vivre? Comment est-ce qu'on va le vivre? Maintenant, dans ces versets, je vous invite tout simplement à répondre à deux questions. La première question, c'est pourquoi s'offrir à Dieu? On va justement réfléchir à la motivation dans le verset 1. Pourquoi s'offrir à Dieu? Et ensuite, comment s'offrir à Dieu? La manière de s'offrir à Dieu dans le verset 2. D'abord, pourquoi s'offrir à Dieu? J'ai mentionné tout à l'heure la motivation qui peut nous pousser à agir pour le bien des autres, par amour pour les autres, la crainte. Mais on a vu qu'il y a des limites. On pourrait en évoquer une autre. Moi, j'ai été instituteur, et il y en a peut-être des instituteurs dans la salle, mais les instituteurs, on utilise tout ce qu'on peut pour motiver les élèves. Et une des motivations qu'on peut avoir, ça peut être la fierté. Et vous avez certainement tous entendu un message qui en gros vous dit « Allez, tu vaux mieux que ça, tu ne vas quand même pas en rester là, tu peux faire mieux que ça. » Un appel à la fierté, parce qu'on veut encourager une démarche, un zèle. Et là encore, c'est une motivation qui peut avoir du sens par moment, et pourtant, qui là encore, est très limitée. Est-ce que par fierté, on va vraiment pouvoir s'avancer vers les autres en s'humiliant et en étant prêt à les élever? Est-ce que la fierté, ça ne va pas justement poser problème quand on a à aimer les autres? Elle aussi, elle est limitée. On a besoin de quelque chose, comme le disait Comte Sponville, de plus intériorisé, de plus profond et aussi de plus pur. Pourquoi s'offrir à Dieu? Et on lit le premier verset. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. » Et il y a deux éléments dans ce verset-là qui doivent nous aider à réfléchir à ces motivations. Le premier mot, c'est un tout petit mot, le mot « donc ». Le mot « donc » qui permet de faire le lien avec tout ce que l'apôtre Paul a écrit jusque-là dans sa lettre, et qui va permettre de voir les implications. Donc, il fait le lien entre tout ce qu'il a écrit avant et ces chapitres 12 et 15 qui démontrent les implications de cela. Un autre indice qu'on peut reprendre dans ce verset, c'est « Je vous exhorte donc par les compassions de Dieu. » Les compassions de Dieu. Pourquoi s'offrir à Dieu? Eh bien, précisément, à cause de ses compassions, à cause de son amour. Et quand on part à la recherche de ce mot-là, dans ce qui précède dans la lettre, en grec, on le retrouve au chapitre 9, verset 15. Et dans le contexte, l'apôtre Paul parle de la miséricorde de Dieu, du fait que Dieu ne nous a pas traités comme on le méritait, mais qu'il a eu compassion de nous. Il ne nous a pas jugés comme on le méritait. Et au-delà du terme « compassion » dans ce verset-là, c'est l'ensemble de la première partie de la lettre. Parce que dans les premiers chapitres, l'apôtre Paul, il a démontré qu'on est tous coupables, on a tous tendance à choisir notre propre voie, à vivre pour nous-mêmes en étant centrés sur nous-mêmes, à vouloir soi-même décider pour nous-mêmes ce qui est bien, ce qui est mal, incapables de vivre de manière à plaire à Dieu. Ce qu'il dévoile ensuite, c'est que, alors que nous étions pécheurs, alors qu'on vivait comme ça, Dieu, il a accepté en Jésus de démontrer son amour vis-à-vis de nous en donnant son Fils. À peine est-ce qu'on accepterait de donner sa vie, de sacrifier sa vie pour quelqu'un de bien, mais il nous est dit dans le chapitre 5 que Christ a accepté de donner sa vie pour des pécheurs comme nous. Et il va ensuite dévoiler tous les privilèges qui découlent de cette union avec Jésus. Et la motivation que l'apôtre Paul témoigne, met en évidence ici, c'est justement les compassions de Dieu témoignées en Jésus. Et il faut reconnaître que c'est facile de manquer la valeur de cette motivation. On peut facilement manquer la valeur de cette motivation. J'ai mentionné André Comte-Sponville tout à l'heure pour dire qu'il avait fait une bonne remarque sur les limites de la crainte comme motivation. Mais quand il parle de son éthique, il se décrit volontiers comme un athée fidèle. Autrement dit, il est athée, mais fidèle dans le sens qu'il se reconnaît dans une certaine valeur judéo-chrétienne, une certaine éthique. Et pour lui, l'éthique, on peut la détacher de ses fondements, de son enracinement. On peut le détacher les deux. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est légitime de garder l'éthique en disant « Non, je ne veux plus croire en Dieu ». Je ne veux pas croire en Dieu, mais par contre, je veux bien reprendre son éthique. Je vais vous lire, et c'est intéressant de l'entendre, 500 ans plus tôt, un Jean Calvin qui commente sur ce passage, écrit la chose suivante. Alors, si vous n'avez pas l'habitude d'écouter un théologien, en plus, qui a vécu il y a 500 ans, vous accrochez sur les fauteuils, mais ça devrait être saisissable. « C'est en cela que consiste la principale différence entre l'Évangile et la philosophie. Car bien que les philosophes traitent des mœurs magnifiquement et d'une façon qui leur acquiert la louange pour leur subtilité d'esprit, néanmoins, toute la beauté qui reluit de leurs enseignements est comme un beau bâtiment et de grande apparence, mais qui sera sans fondement. Parce qu'en laissant de côté les principes, il propose une doctrine imparfaite, ni plus ni moins que s'il faisait un corps sans tête. Un corps sans tête. C'est ça, une éthique dont on a enlevé les fondements, dont on a enlevé les racines. Comme un arbre qui n'a plus de racines, comme un beau bâtiment, mais qui n'a pas de fondement. On a besoin justement d'un fondement pour vivre une belle éthique. On a justement besoin de racines bien, bien en terre pour pouvoir bien vivre. Alors où est-ce qu'on va trouver le modèle, les ressources pour cet amour? Eh bien, c'est justement dans les compassions de Dieu. Dans les compassions de Dieu. À quoi est-ce que ça pourrait ressembler? Comment est-ce qu'on pourrait illustrer cette motivation que cela peut donner? Les compassions de Dieu. Quel changement cela peut provoquer dans notre manière de voir, dans notre manière de vivre? Bertrand Duquesclin, c'est un homme qui a vécu au XIVe siècle. Originaire de Bretagne, il a connu un destin assez formidable. Plusieurs biographies ont été écrites à son sujet. Alors qu'il a vécu une enfance assez difficile, rejeté par son entourage, par sa famille, il n'avait même pas le droit de manger à la table familiale parce qu'on le trouvait laid. Et il était mis de côté. Et vous pouvez imaginer la souffrance, le rejet qu'il ressentait. Mais parallèlement à ce rejet, il a développé une force qui, semble-t-il, était assez remarquable. capacité dans l'art de se battre. Et à l'adolescence, il va s'enfuir du foyer familial, probablement justement parce qu'il se sentait rejeté, pas aimé dans sa famille. Passionné de combat, il s'inscrit à un tournoi organisé à l'occasion d'un mariage à Rennes. Et comme il n'a pas de moyens, il se trouve une armure, mais de piètre qualité, pour combattre à ce tournoi. On ne donne pas cher de sa peau, mais petit à petit, il fait son entrée dans le tournoi, et c'est 10 victoires successives dans le tournoi. Mais alors qu'il doit affronter son prochain adversaire, il renonce. Il renonce son prochain duel. Pourquoi ? Parce qu'il a reconnu en face son propre père. Son propre père. Et parce qu'il veut l'épargner, par respect pour lui, par compassion, il renonce au combat. Quand son père y réalise ça, il est ému, touché. Il va le prendre dans ses bras, ils vont vivre une réconciliation. Et à partir de là, son père, ce sera son plus fidèle admirateur. D'un simple guerrier, il va devenir chef de l'armée française. Et son père sera à ses côtés, à sa suite, tout au long de sa vie. Qu'est-ce qui peut provoquer un tel changement ? Qu'est-ce qui peut renverser complètement la manière de voir l'autre ? Et donner des motivations comme celle-là. Est-ce que c'est la fierté qui peut faire ça ? Non. Est-ce que c'est la peur qui peut faire ça ? Non. Ou même la récompense ? Non, justement pas. Non, ce qu'il y a chez lui, c'est le fait pour ce père d'avoir saisi la compassion de son fils. Et ça change radicalement sa manière de le voir. La compassion de Dieu, si elle est bien comprise, elle va nous donner des motivations profondes et pures pour vivre différemment. D'accord, la compassion c'est la plus belle, une des plus belles motivations, plus profonde, plus pure. Mais comment est-ce que ça se vit? Et on arrive à la deuxième question, comment s'offrir à Dieu? Comment s'offrir à Dieu? On vous lit au verset 2, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Comment s'offrir à Dieu ? Ben, il y a deux éléments complémentaires qui sont donnés ici. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. S'offrir à Dieu, c'est comme les deux faces d'une même pièce. Il y a d'un côté quelque chose de très actif, où on est engagé, ne vous conformez pas au monde présent. Et en même temps, quelque chose qui se fait malgré nous, presque. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça met l'accent ici sur une œuvre que Dieu accomplit en notre faveur. S'offrir à Dieu, c'est comme donc aspirer de toutes ses forces à vouloir s'offrir à lui et en même temps reconnaître que c'est lui qui a accompli une œuvre en nous dont on n'était pas capable, qu'on ne maîtrise pas. C'est un peu comme un gars qui est amoureux d'une fille. Il a de l'amour pour cette fille et il fait tout ce qu'il peut pour lui plaire. Il lui offre ce qu'il sait qu'elle aime, il fait des efforts dans sa manière de s'habiller, dans les repas qu'il prépare, dans les choses qu'il lui propose de faire. Des efforts qui sont mis en route. Et dans le même temps, de l'extérieur, souvent, quelqu'un qui constate qu'au contact de cette fille, il est en train de changer, sans même le réaliser. Lui-même a de la peine à le voir, à le discerner, mais il est en train de changer parce qu'il aime tellement cette fille, parce qu'il apprend à la connaître, qu'il est en train de lui ressembler en quelque sorte, ou de changer en tout cas. Mais c'est un peu comme ça. Dans s'offrir à Dieu, il y a à la fois un engagement, mais d'une manière encore bien plus forte, il y a une œuvre que Dieu accomplit, il y a une œuvre que Dieu lui-même accomplit en nous, un amour qui transforme, qui change, une pensée qui est renouvelée. Pris séparément, à quoi ça ressemble, ne pas se conformer au monde présent ? Eh bien, s'offrir à Dieu, c'est renoncer à tout ce qui paraît normal, naturel, quand on vit sans vivre pour Dieu. C'est normal, c'est naturel de se placer au centre des relations et d'estimer que les autres doivent tourner autour de nous. C'est normal, c'est naturel, on va parler des réseaux sociaux, de vouloir que les autres nous aiment, que les autres nous apprécient et de faire tout pour que les autres nous apprécient et nous aiment. C'est normal, c'est naturel d'éprouver que peu de sympathie vis-à-vis des autres et d'être centré sur soi. C'est normal, c'est naturel de rendre le mal pour le mal, de vouloir se venger quand on nous a fait du mal. C'est courant, c'est naturel de penser que sur le plan de la vie sexuelle, on peut vivre comme on veut. On n'a de compte à rendre à personne. Mais pourtant, s'offrir à Dieu, ce sera précisément désirer le changement, désirer vivre d'une manière qui n'est pas conforme au monde, mais conforme à ce que Dieu veut. À quoi ça ressemble, le fait d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence ? Cette transformation que Dieu opère, ce renouvellement de l'intelligence, eh bien, on peut la décrire comme une spirale ascendante. Dieu commence par affecter nos pensées, notre manière de voir, nos désirs de vivre pour lui. Et le changement permet ensuite de rechercher à connaître sa volonté, de discerner de plus en plus ce qui lui plaît, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui va lui plaire. Et là, les commentateurs de ces versets décrivent un contraste entre deux spirales. Là, il y a une spirale ascendante, mais au début du livre, au début de la lettre aux Romains, on voyait une spirale descendante. Tout commençait par le fait de ne pas reconnaître Dieu, de ne pas vouloir le remercier et de vivre pour soi, de se choisir soi-même des idoles. Et on s'enferme petit à petit dans un mensonge, on s'enferme dans un désir de vivre pour soi. Et plutôt que d'être délivré, libéré, émancipé, on devient aveugle, on devient captif de nos passions, de nos pulsions. S'offrir à Dieu, ce sera plutôt être transformé dans sa pensée, saisir de mieux en mieux ce qui plaît à Dieu, de vivre d'une manière qui lui plaise, qui lui soit agréable, d'une bonne manière. Comment s'offrir à Dieu ? Dans la manière, il y a en fait des efforts qu'on veut faire pour lui plaire, et en même temps, la conscience que lui-même est en train d'opérer une œuvre en nous qui nous échappe. Elle commence par la pensée, l'intelligence, et le renouvellement nous permet ensuite de discerner sa volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Je dis cela, mais moi-même, moi j'ai beaucoup de peine à vivre ça. Et j'imagine qu'il y en a d'autres dans la salle qui vivent cette même difficulté. On peut parler de tout ça, et ça peut être beau sur un plan théorique de dire « mais moi j'aimerais vivre ce renouvellement, j'aimerais vivre de manière à lui plaire. » Qu'est-ce qui va nous aider ? Et si on revenait à cette question de la motivation ? Il y a un élément qu'on n'a pas relevé dans le verset 1 et qui doit nous surprendre. L'apôtre Paul, quand il parle de ce sacrifice, de cette personne qui s'offre à Dieu, il la décrit par 3 qualificatifs. Vivant, saint, agréable à Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de surprenant dans cette description ? Ben, si vous lisez le début de la lettre, c'est tout l'inverse qui était dit de nous. En ce qui nous concerne, le verdict au départ, ce n'était pas qu'on était vivant. On était mort spirituellement, sans vie spirituellement, aucune relation avec Dieu. Le verdict au départ, ce n'est pas qu'on était saint. On était tellement corrompu par le péché que le péché nous caractérisait entièrement. Le verdict au départ, ce n'est pas qu'on était agréable à Dieu, on était sous sa juste colère. Dieu était en colère contre nous. Et si la profondeur de nos motivations se voyait dans la profondeur des écarts, on était mort et ici nous déclare vivant. On était corrompu par le péché, péché par nature, et il nous déclare saint. On était sous sa juste colère, et ici il peut dire de nous que nous lui sommes agréables, que nous sommes agréables à Dieu. Pas à cause de nos efforts, pas par nature, mais à cause de celui qui s'est donné pour nous dans sa compassion, dans les compassions de Dieu. Parce que dans sa compassion, Jésus, par sa mort, nous a donné la vie. Parce que dans sa compassion, Jésus s'est offert en sacrifice, lui, mort, un sacrifice qui, c'est, qui a connu la mort, qui a couvert nos fautes. Parce que dans sa compassion, Jésus, par son offrande à Dieu, a apaisé la colère de Dieu. Et c'est quand on comprend la profondeur de ces écarts qu'on a envie de lui plaire, qu'on a envie de vivre différemment. Pour terminer, j'aimerais juste vous lire un témoignage. Il y a quelques jours, j'ai rencontré pour la première fois la sœur d'un homme qui a vécu à Paris, que j'ai côtoyé vers la fin de sa vie. Il est décédé maintenant. Il est décédé d'un cancer il y a à peu près 3 ans. Il s'appelle Eddy. Je parlais de réseaux sociaux, mais juste quelques temps avant sa mort, il a mis par écrit son témoignage qu'il a voulu mettre sur Facebook. Et j'aimerais vous le lire. Ça va prendre quelques minutes. Et j'aimerais vous le lire parce que l'essentiel de sa vie, Eddy a vécu dans une relation homosexuelle avec quelqu'un qui, par la grâce de Dieu et par son témoignage, lui aussi s'est tourné vers le Seigneur. Mais j'aimerais vous lire cela parce que je trouve qu'il décrit bien ce changement opéré dans sa vie, dans sa manière de vouloir vivre. Je connais certains d'entre vous depuis toujours, d'autres depuis moins longtemps. Mais que nos vies se soient côtoyées depuis longtemps ou peu, je veux que vous sachiez que je remercie Dieu pour la joie de connaître chacun de vous. Dieu a commencé à transformer ma vie et j'ai commencé à reconnaître publiquement ma foi en Dieu et en son Fils Jésus-Christ cette année écoulée, ce qui a peut-être surpris certains d'entre vous. Le moment semble être opportun pour donner un bref témoignage de sorte que vous puissiez comprendre. Dieu soit remercié, depuis l'âge de 5 ou 6 ans, j'ai toujours cru à son existence. À l'âge de 7 ans, lorsque j'ai entendu parler de Jésus, j'ai prié de tout mon cœur, j'ai accepté le Christ comme Seigneur et Sauveur, mais sans comprendre tout ce que cela signifiait. Parce que je n'avais pas eu d'enseignement supplémentaire dans la parole de Dieu et que je ne connaissais pas l'amour véritable et la puissance de Dieu, j'ai commencé à me rebeller sur la base de mon ignorance et de ma nature corrompue. Tristement, je suis tombé dans de nombreuses erreurs, comme les Israélites lorsqu'ils se sont rebellés contre Dieu, alors qu'il les dirigeait hors d'Égypte. Comme eux, j'ai erré 40 ans dans le désert, où Dieu a pourtant toujours pourvu pour moi et m'a protégé. Mais c'est une période où l'épreuve et l'instabilité régnaient en permanence dans ma vie. Mon silence toutes ces années n'était pas dû au fait que je ne croyais pas intérieurement en Dieu et en son Sauveur choisi, son Fils Jésus. Simplement que dans mon style de vie rebelle, j'avais honte de dire que je suivais Christ, alors qu'il y a tant d'hypocrites qui donnent déjà aux chrétiens une mauvaise réputation. Je ne voulais pas non plus connaître la douleur du rejet de la part des autres. Après une enfance difficile, des années à chercher à être connecté aux autres, en voulant soulager le sentiment de n'avoir aucune valeur, je cherchais l'amour dont nous avons tous besoin et auquel nous aspirons tous. Mais Dieu soit loué, je n'ai plus honte de déclarer publiquement et à haute voix que Jésus-Christ est mon Dieu et mon Sauveur. Et si je n'avais pas le courage de parler tout haut, c'est aussi parce que j'avais peur de faire honte au nom de Jésus-Christ par mes actes. Bien que je n'y arrivais pas par mes propres forces, je voulais vivre à la hauteur de mon Seigneur. Il a fallu une vie entière d'efforts personnels inutiles afin de finalement comprendre que je n'atteindrais jamais les exigences de la justice de Dieu. Je remercie mon Dieu et mon Père dans les cieux de ce qu'il est si fidèle et de ce qu'il ne m'a jamais abandonné, même s'il haïssait de me voir me détruire la vie dans l'erreur. J'ai la ferme conviction que si s'il m'a épargné, c'est parce qu'il savait qu'au milieu de mon péché, mon cœur était quand même dirigé vers lui et que je cherchais encore dans mon cœur, même si ce n'était pas extérieurement. Sans entrer dans les détails trop personnels, qui n'ont pas besoin d'être partagés ici, laissez-moi vous dire que j'ai sérieusement commencé à revenir vers Jésus de tout mon cœur et de toute ma pensée petit à petit en 2007, évitant des péchés notoires tout en luttant sans arrêt. Il y a à peu près 2 ou 3 ans, j'ai abandonné le sentiment de devoir me justifier par mes propres efforts et j'ai commencé à prier quotidiennement que le Seigneur Jésus agisse dans ma vie. J'ai la conviction que son retour est imminent. Il suffit de regarder l'état du monde et la direction qu'il prend. Ma prière au quotidien était essentiellement la suivante. Seigneur, prépare-moi pour ton retour prochain. Purifie ma vie de tout le péché auquel je ne peux résister pour que je sois prêt pour toi à ton retour. Fais ce qu'il faut pour cela. Je vois l'année écouler comme une réponse à mes prières. Le cancer. Les épreuves ont été le moyen pour Dieu d'accomplir sa volonté dans ma vie et elles continuent à me transformer. Durant mes 47 années de vie, je n'ai jamais connu une paix, une espérance, un amour, une joie telle qu'à présent. Je ne peux que louer mon Seigneur Jésus d'avoir dans son amour, sa miséricorde et sa grâce fait contribuer toutes choses pour le bien dans ma vie, selon son projet pour lequel je donne volontairement le reste de ma vie, longue ou courte. Loué soit Dieu, mon Père céleste. Loué soit mon Seigneur Jésus, mon Sauveur. Et loué soit le Saint-Esprit pour son œuvre de transformation en moi. Amen.